Bonjour Philippe Jaworski.
Bonjour.
Moby Dick ou le cachalot, le chef-d'œuvre d'Herman Melville vient de sortir dans une nouvelle édition chez Gallimard Quarto avec de magnifiques illustrations de Rockwell Kent. Vous avez traduit le roman de l'américain et vous le présentez. Cette édition s'ajoute à de nombreuses autres. Moby Dick est sorti dans la Pléiade, dans votre traduction aussi. Alors pourquoi cette nouvelle édition ?
Pour essayer de montrer que, au fond, quand on entre dans Moby Dick, dans le roman, on entre dans un monde, et on a voulu donner au lecteur l'occasion de le parcourir un petit peu dans tous les sens. D'une part, en effet, en donnant les illustrations de Rockwell Kent que vous avez évoquées, qui sont très connues aux États-Unis, mais qui le sont beaucoup moins en France, et qui sont probablement les plus belles illustrations qu'on ait faites de ce roman. Elle date de 1930, parce que le roman original est paru sans illustrations. Les illustrations ont été faites bien plus tard. Elles sont absolument superbes, elles sont en noir et blanc. On dirait des bois gravés, en fait. C'est une technique un peu plus compliquée que le bois gravé.
Il y en a 280.
Il y en avait 280, on en a à peu près le quart. Mais je crois qu'on a d'une part les plus belles du point de vue de la qualité, et puis on a aussi les plus grandes scènes. Je crois que ce sont des images d'une telle puissance, d'une telle poésie qu'on ne les oublie pas.
Rockwell Kent s'est donc attaché à ce roman de chasse de la baleine, puisque Moby Dick, c'est bien ça, c'est Ahab, le capitaine, qui, dans un quasi corps à corps avec le cachalot, hein, tout le long du roman, engage quasi une guerre, hein, on va dire, contre cet animal. C'est un roman initiatique ?
Oui, on pourrait dire que c'est un roman initiatique au sens où c'est un roman qui met en scène un héros qui est en quête de compréhension, en quête d'intelligibilité. Il veut comprendre au fond le mystère de l'univers et plus particulièrement le mystère du mal, puisqu'il identifie le cachalot qui l'a mutilé à une sorte de principe du mal. En tout cas, il s'interroge pour savoir, au fond, pourquoi les choses se sont passées ainsi, pourquoi le cachalot s'est attaqué à lui, pourquoi le cachalot l'a démembré, qui a créé le cachalot ? Est-ce un hasard de la nature ? Est-ce une intention divine qui est cachée là-dedans ? Donc, de ce point de vue-là, en effet, c'est un roman initiatique. Mais je voudrais ajouter tout de suite que la chasse, qui devient une quête d'Ahab, n'est pas le seul sujet, d'une certaine façon, du roman. Il y a, par ailleurs, tout ce qui touche à la chasse, proprement dite, à la baleine, toute la partie qu'on peut dire documentaire, et qui est très importante en quantité, puisqu'elle représente quand même plus de la moitié du roman. Et c'est aussi à cette partie du livre que nous nous sommes particulièrement intéressés, qui est souvent négligée, il faut le dire, et par les illustrateurs et surtout par les critiques et par les lecteurs.
Et pourquoi donc cette importance de ces chapitres documentaires, quelle est leur importance pour vous ?
Elle est considérable. Melville attribue toute cette partie à son narrateur, Ismaël, qui apparaît dès les premiers chapitres du roman, et dont on peut penser qu'il est tout de même l'auteur de tous ces chapitres-là. Et on s'aperçoit à les lire que non seulement ce sont des chapitres qui informent le lecteur sur ce qu'est la famille des cétacés, comment on chasse la baleine, comment on dépèce l'animal, comment on transforme le gras de la baleine en huile, etc. Mais que tout au long de ces chapitres-là, Ismaël se livre à une interrogation permanente sur la qualité de l'information scientifique. C'est-à-dire que, parallèlement à la chasse d'Ahab, se déploie une toute autre chasse qui est à mettre au compte du narrateur, qui est une chasse beaucoup plus intellectuelle, si je puis dire, qui est une chasse, au fond, sur le savoir. Ismaël est lui aussi en quête de connaissance, mais sa connaissance est d'une toute autre nature que celle d'Ahab. Sa connaissance, elle pourrait se résumer, si vous voulez, à la question « Que peut-on savoir de sûr sur ce monstre de la création ?» qu'est la baleine. Akab veut se venger en même temps. Ismaël ne se venge de rien du tout. Il essaye de comprendre ce qu'il pose dès le départ comme une sorte de mystère insondable de la création.
Et Moby Dick a aussi la réputation d'être l'un des romans de langue anglaise qui utilise le vocabulaire le plus riche. Est-ce que, en tant que traducteur, vous l'affirmez ?
Absolument. C'est d'une richesse extraordinaire parce que les registres sont très très nombreux. Il y a le registre du récit d'aventure. Il y a tout le registre de la spéculation parce que Melville réfléchit à haute voix, en quelque sorte. Il pense, il est passionné par les idées. Il y a des quantités de passages qui sont quasiment philosophiques. Il y a les monologues d'Akab, qui sont des monologues de théâtre, à l'imitation de Shakespeare. Il y a toute la partie technique concernant à la fois le monde du navire, le monde marin et la technique de la chasse. Il y a des passages extraordinairement lyriques qui sont quasiment de la poésie et bien sûr le vocabulaire est d'une richesse et d'une diversité tout à fait extraordinaire.
De quoi combler le traducteur ?
De quoi combler le traducteur et de quoi lui donner une somme de travail assez importante, oui.
Merci Philippe Jaworski. Je rappelle donc que vous êtes le traducteur de Moby Dick ou Le Cachalot, une nouvelle édition chez Gallimard Quarto avec les illustrations de Rockwell Kent et où vous signez aussi une présentation remarquable du chef-d'œuvre d'Herman Melville. Merci.
Merci à vous.